On va parler du marché immobilier qui continue ses folies ce temps-ci. Les reventes rapides augmentent dans le Grand Montréal. Et quand on parle de reventes rapides, en général, moi, c'est sûr que la première idée qui me vient, ce sont les flips. Mais apparemment, c'est simplement les prix de revente, le prix de revente qui est de plus en plus important. Ça aussi, on le sait que les prix grimpent. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, on va parler à Yannick Parent, courtier immobilier. Yannick Parent, bonjour.
Bonjour, Mme Lavallée, ça va bien?
Bien, je vais très bien. Et vous?
Ça va très bien, merci.
Là, je suis à veille de vous dire, ben, coudonc, venez voir mon petit condo puis me dire, coudonc, y a-tu triplé depuis la semaine dernière? Ça arrête plus de grimper, le marché immobilier. Est-ce que c'est comme ça pas mal partout au Québec?
Moi, je vous dirais, Mme Lavallée, que c'est partout comme ça au Québec. Puis c'est un phénomène qu'on vit là, depuis environ 2 ans, mais que c'est vraiment intensifié là, depuis la pandémie. On a atteint des pointes là, jamais vues. T'sais, on a des collègues courtiers, là, ça fait une trentaine d'années qu'ils font ça. Ils nous disent régulièrement, là, c'est vraiment quelque chose qui est du jamais vu, en fait, dans un marché immobilier qui est vraiment en ébullition, là, constante.
Et d'où vient cet appétit fou là, des acheteurs et qui sont même prêts là, à faire des hausses? Là, parce que là, on le sait, pendant longtemps, ça, c'était le propre de l'Ontario et de la Colombie-Britannique de faire un peu des genres de vente aux enchères, là, de dire « Ah, on prend les offres juste jeudi soir », mais là, ça se fait au Québec aussi. Et il y a des gens qui sont prêts à mettre pas mal plus que le prix demandé. Ça vient d'où, cet appétit?
En fait, il y a plusieurs facteurs, je vous dirais, mais il est clair là, qu'il y a la rareté de la propriété, la rareté de l'habitation et le nombre très élevé d'acheteurs potentiels qui fait en sorte que c'est effectivement, là, on est prêt à investir énormément pour acquérir sa première propriété. On est prêt aussi, et on voit un petit peu la part du gain. Là. Tu sais, on achète, on veut peut-être revendre rapidement en se disant, ben on va faire des sous. Mais il ne faut pas oublier, si on revend, évidemment, en tant que propriétaire et on veut acheter par la suite, ben, il est clair qu'on va payer plus cher aussi. Donc, il y a quand même plusieurs pensées de gain dans tout ça. Tu sais. Puis, je regardais la statistique, Mme Lavallée, là, tu sais, 3,2% des transactions sont des reventes rapides. Ça représente quand même un pourcentage très faible là, au point de vue totalité des transactions, mais ça a quand même certainement un impact au niveau là, du prix puis de la surchauffe qu'on vit actuellement.
Tout à fait. Mais donc, c'est pas nécessairement juste des flips. Là. C'est les prix qui montent simplement. Quelqu'un achète et décide pour X raisons, 6 mois, 1 an après, sa vie a changé ou il revend, le prix a monté, c'est tout.
Oui, puis je vous dirais, là, les flips, c'est, à mon sens, à moi, c'est de plus en plus difficile. Hein? Parce que, tu sais, un flip, là, pour pas que ça devienne un flop, il faut payer
Il y a un titre d'émission comme ça aux États-Unis.
Ouais, flip or flop. Je vous dirais qu'il faut être très aguerri parce que c'est facile que ça se transforme en flop. Je vous explique, hein. On dit en immobilier, on fait le profit souvent à l'achat. Donc, on veut s'assurer de faire un achat raisonnable pour ensuite de ça, améliorer le bâtiment et revendre à profit. Mais vous comprendrez qu'avec le prix à la hausse des propriétés, c'est très difficile de faire un achat moins coûteux. Donc, on le voit encore dans certains cas, tu sais, dans les cas de succession, des cas aussi de propriété, des fois qui vont un petit peu transiger dans la famille, on peut quand même s'en sortir. Mais je vous dirais que des gens qui n'ont jamais fait de flip présentement sont appelés un petit peu par ce phénomène-là, justement dû au fait que les prix sont tentants, parce qu'on sait que des gens qui ont acheté l'année passée peuvent revendre cette année, Mme Lavallée, des fois à 50, 100 000 de plus que le prix qu'ils ont payé sans avoir vraiment investi dans la maison. Fait qu'on comprend que c'est tentant.
50 à 100. Puis on parle de résidences qui valent combien là, pour augmenter de 50 à 100 000?
Écoutez, on l'a vu sur toutes les catégories de marché. Wow. On parle de propriétés de premier acheteur, mais c'est probablement surprise ou pas surprise d'apprendre que même pour des propriétés, là, le budget est beaucoup plus élevé. Là. On parle, exemple, des propriétés d'un million et plus. On a des années records de vente aussi de ces propriétés-là. Des propriétés d'un million et plus, là, il y en a qui sont vendues en 2021 de façon là, vraiment en termes de record. Donc, c'est clair qu'on touche toutes les strates du marché et cette surchauffe-là ne vise pas simplement les maisons de premier acheteur, si on veut, mais vraiment toutes les catégories de propriétés. Et ça, c'est vraiment partout au Québec.
Je voulais vous demander aussi, M. Parent, ce genre de marché de fou, Toronto l'a bien connu. Comme je vous disais tantôt, la Colombie-Britannique, Vancouver, les prix, c'est dans le plafond, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous écoutent, aux parents de jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient beaucoup s'acheter une maison? C'est quoi la solution pour les jeunes en ce moment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à un marché fou comme ça?
Je vous dirais qu'il faut se faire des alliés. Des alliés, là, premièrement, la première chose à faire, il faut vraiment être en mesure, clairement, d'établir son budget. Il ne faut pas se lancer comme ça là, à tout vent. Il faut vraiment aller chercher ce qu'on appelle une préqualification bancaire. C'est la première étape. Et la deuxième, parce que là, on va déterminer son budget. On va être en mesure vraiment de savoir là, à quelle, justement, partie du marché on peut s'aventurer, parce que vous croyez, c'est vraiment une aventure présentement sur le marché. Et la deuxième chose à faire, un allié, donc aller trouver un courtier immobilier. Ça, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, mais non, il faut vraiment être avec des gens qui connaissent le marché, qui vont pouvoir vous orienter, vous aider, parce que c'est un petit peu la jungle et il faut vraiment avoir de bons conseils présentement pour être en mesure de bien s'en sortir dans le marché à l'achat.
Diriez-vous,
il ne faut pas se décourager.
Ouais, diriez-vous aussi que dans un sens, même si ce n'est pas le rêve des jeunes nécessairement de faire ça, mais que mieux vaut se prendre un tout petit, tu sais, je sais qu'il y a maintenant même des 300-350 pieds carrés, là, genre Griffintown ou autre, c'est mieux de se prendre un petit, ne serait-ce que pour tranquillement pas vite se monter un capital?
Absolument. Moi, je le répète à mes clients, investissez, trouvez une façon de faire pour avoir quelque chose qui vous appartient. À partir du moment où vous avez quelque chose qui vous appartient, que ce soit une maison modulaire, que ce soit un chalet, que ce soit un condo, bien, on investit. Et tantôt, cet investissement-là va devenir un levier pour pouvoir s'acheter quelque chose de plus gros, si vous me permettez l'expression, donc d'aller vers la propriété. Puis, mm-hmm. je vous raconte une petite anecdote en 3 secondes. On a des clients présentement qui misent, des premiers clients qui misent sur des maisons. Et malheureusement, Mme Lavallée, pour les budgets avec lesquels on travaille, on ne réussit pas à acheter de propriété là, unifamiliale avec eux. Donc, on doit se retourner vers un condo. Mais si les gens m'écoutent, c'est pas dramatique. Allez-y vers la copropriété, peut-être un temps. Et d'ici 1 an, 2 ans, ce condo-là pourra peut-être être loué, devenir un investissement pour vous permettre d'acheter la propriété de vos rêves, à ce moment-là, une maison unifamiliale. Parce qu'il faut vraiment y aller par étapes.
Bon, sage conseil. Avant de te laisser, je veux quand même vous demander de revenir à ces prix de revente rapide là, qui augmentent, quand on fait des rénovations, quelqu'un qui dit, ben moi, je vais revendre, je ne suis pas sûr, j'adore ma maison, mais je vais quand même refaire la cuisine, la salle de bain, ça peut apporter des gains importants aussi sur la revente. Là.
On le voit, hein, puis on le voit dans le rapport de la SCHL, au niveau des ventes rapides, là, en dedans de 12 mois, là, c'est la hausse moyenne des prix, 38,7% versus 13,2% pour les maisons pour lesquelles on a revendu dans une période plus longue. Donc, il est clair que si on investit dans notre propriété, encore là, il faut faire très attention de ne pas surinvestir dans le marché actuel. Nous, les courtiers, jour après jour, on explique à nos clients qu'il y a des rénovations payantes. On sait que c'est classique, la cuisine, la salle de bain, c'est payant, mais il faut faire attention. Dans le marché actuel, présentement, je vous dirais, même si on rénove pas tant que ça, on va vendre plus cher. Vous allez avoir davantage pour votre propriété. Mais trouvez-vous un plan B pour la suite avant de mettre votre maison en vente, parce que pour acheter, si vous demeurez dans la grande région de Montréal, par exemple, vous allez payer plus cher. Alors, il faut faire très attention.
Oui, puis ça change de semaine en semaine. Donc, quelqu'un qui vend en ce moment, qui est tout heureux d'avoir un très bon prix, ben il ne peut pas trop attendre pour magasiner, pour essayer de rester dans le même style de marché.
Absolument. Il faut vraiment, là, moi, je vous dis, il faut cibler d'abord qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on est prêt à louer un temps? Est-ce qu'on a un plan B au cas où on ne trouverait pas une nouvelle propriété? Parce que justement, on ne veut pas qu'un flip de notre propre maison, une revente rapide, se transforme en cauchemar. Et d'ailleurs, dans le rapport de la SCHL, hein, on tient compte seulement du prix payé, du prix revendu. On ne tient pas compte des dépenses qui sont survenues entre ça, parce qu'on sait que si on prend une maison ou un logement ou un immeuble à revenus, évidemment qu'on va devoir investir, évidemment qu'on va avoir de la gestion à faire. Donc, ce même rapport nous explique que, tu sais, c'est pas tous les investissements, même avec des prix très, très hauts à la revente, qui ont été des bons placements pour les investisseurs.
Dernière question. Là, c'est vrai, Yannick Parent, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont même prêts à acheter sans faire d'inspection? Moi, ça me dépasse.
Oui, malheureusement, je vous dirais qu'on a vu ça dans le marché de la dernière année. Et ça aussi, c'est jamais vu. Et si les gens nous écoutent, Mme Lavallée, moi, je le répéterai jamais assez souvent, ne faites pas ça. Faites inspecter vos propriétés avant de les acheter. Là, on a des cas présentement de gens qui ne l'ont pas fait, qui arrivent dans ces nouvelles propriétés-là, découvrent des vis et là, fonctionnent à l'envers. Contactent un inspecteur en bâtiment et là, ça devient carrément des rapports d'inspection pour aller à la cour contre l'ancien propriétaire. Et on sait très bien que lorsqu'on a acheté une propriété, c'est l'investissement d'une vie. Si on ne l'a même pas fait inspecter lors d'un recours à la cour, et ça, c'est pour moi qui le dis, c'est la jurisprudence, si on n'a pas fait inspecter la propriété, comme on dit, là, on part un petit peu avec deux prix.
Absolument. Bien, Yannick Parent, courtier immobilier, merci beaucoup de ces renseignements très, très importants et j'espère que vos conseils porteront fruit.
Je vous en prie, Mme Lavallée. Bonne fin de journée.
Merci à vous pareillement. Il est 16h22. On s'arrête le temps d'une petite pause avant de retrouver Jérémy Filosa et les sports.